parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre réunion extraordinaire du 20 mai 2025 à 19h. Une mention que la réunion est enregistrée pour les biens de la chose. Fait que, on va commencer 2025-05-20-01. Ouverture de la séance. Le quorum est atteint. 2025-05-20-02, adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il une modification à porter?
Oui. Je ne pas. L'ordre du jour, il y a juste un point.
Ben, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, changement d'usage, période de questions, autre sujet, levée de l'Assemblée. Ben, il n'y a pas d'autres sujets, en fait.
Il n'y a pas d'autres sujets. Monsieur Daou, Madame Poulain.
J'espère que le monde s'est marqué, je le suis.
Fait qu'on serait à 2025-05-20-03. Changement d'usage au 774 rue principale. Il a attendu que Lucie Côte-Noire a fait une demande.
Non, on ne lira pas, on va expliquer la situation. Bon.
Fait que nous avons deux invités dans la salle, Mme Lucie Côte-Noire et Benoît Côte-Noire, les principales personnes pour ce projet. Fait que j'aimerais que Mme Côte-Noire vous présente en avant et dire exactement c'est quoi votre projet.
On peut-tu nous approcher deux chaises? Comme ça, Nicolas va pouvoir les voir comme du monde. On va pouvoir poser une question à Ariel.
Ils peuvent avancer comme d'habitude.
Peux-tu qu'il reste debout le temps qu'il explique tout ça à Nicolas?
Ben, c'est le maximum.
C'est les personnes en avant de moi qui
voient. Nicolas les voit.
Il les voyait très bien.
C'est
pas mal. Ici, avant.
Luc? Salut, monsieur Pilb. Ça va bien? Super.
Donc, ici, vous avez. Normalement, une période de questions, c'est 30 minutes maximum. Ou deux questions par citoyen. Fait qu'on va. On va y aller 30 minutes max.
Pour la totalité.
Pour la totalité.
Mais je ne sais même pas ce que je fais ici. Qu'est-ce qu'il faut que je dise?
Je veux que tu nous expliques exactement qu'est-ce qui consiste ton café ludique.
OK.
Qu'est-ce que tu veux faire et.
OK.
Aux autres membres du conseil. Du conseil.
Je pars un café ludique, café bistrot, avec un petit quelque chose à grignoter, quelque chose pour accueillir le monde. Le ludique, c'est un peu comme le même principe que Normand Damour qui a ouvert à Montréal des bars ludiques. C'est un petit café, puis que le monde vient prendre un verre, vient prendre une bière, vient prendre une sandwich, passe en passant, puis nanana. Puis, il y a des jeux. On part un jeu de société. La bibliothèque, on prend un livre, on s'amuse comme ça. C'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose de communautaire. Puis pour une place pour se réunir en communauté. C'est ça.
OK. On a entendu parler aussi, vous pouvez peut-être ouvrir un dépanneur.
Oui, ça, c'est pas moi. C'est pas ma partie à moi, ça.
OK.
Moi, c'est vraiment le café ludique pour que le monde puisse avoir une place à aller chercher quelque chose à manger. Puis c'est style sandwicherie, là, un peu, là.
Okay.
On n'est pas au Café Central ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est bien simple. Une petite soupe chaude, une petite salade, un petit sandwich. On finit de travailler, t'arrêtes, tu veux prendre un petit verre. C'est ça. Puis partager des jeux, puis partager du temps en famille, entre amis, des choses comme ça.
Okay.
Mais les autres parties, moi, c'est cette partie-là, moi, la mienne.
OK. Puis, côté, mettons, pour revenir au dépanneur, c'est-tu de quoi qui est envisagé? Y a-tu quoi qu'il y a sûrement des pourparlers?
Oui, mais c'est d'autres personnes dans le comité, mais qui vont faire, qui vont regarder pour ça plus tard.
Là. C'est parce que quand t'es là-dedans, on irait tout au complet. Là. Parce que là, c'est un changement de règlement qu'il faut faire. Là.
Mais c'est ça, c'est le changement de règlement pour tout le bâtiment et non juste pour. Parce que je sais pas, moi, tout ce qui va se passer, s'il y a d'autres personnes qui louent un local ou quelque chose comme ça. Fait que, rendu là, je sais pas. Là. Mais oui, le dépanneur, c'était dans les visions d'ouvrir éventuellement un dépanneur pour que la communauté aille un dépanneur.
OK. Question
de terrasse. Mais c'est deux affaires différentes.
OK. Côté terrasse.
Oui, il y a quelqu'un qui a parlé qui voulait mettre des tables dehors. C'est parce qu'ils vendent puis toute l'équipe. Fait que ça encore là, je ne sais pas. Oui, c'est ce qu'on aimerait pour que le monde puisse. Je me suis promenée à un moment donné, je fais du bicycle, puis tu sais, tu as des vieilles, des anciens bâtiments religieux qui sont rendus comme ça, des cafés. Puis écoute, j'avais vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de motos parquées là. Fait que je me disais, ben, c'est une terrasse, ils peuvent s'asseoir dehors, ils peuvent venir chercher le truc en dedans, puis manger dehors, puis prendre un verre dehors.
C'est bon. Monsieur Plouf?
Plouf.
Ah, excusez-moi, Nicolas, j'ai tout le temps de la misère. Est-ce que vous êtes au courant du dossier? Ouais, si tu peux expliquer là, en général de qu'est-ce que.
Mais le premier enjeu qu'il y a, c'est que pour faire des choses comme ça dans l'église, il faut absolument passer par un permis de changement d'usage. Le changement d'usage, ce que ça l'emmène, c'est comme vous avez les codes de construction obligatoires à votre règlement de construction. Puis que le bâtiment, si j'exige une conformité au code, le bâtiment doit absolument passer par la loi sur les architectes. Donc, c'est un architecte que ça prend et on doit avoir une étude du code complète. Pour l'ensemble des usages. Et là, c'est ça. C'est de savoir est-ce qu'on continue à y aller comme ça, parce qu'on ne peut pas déroger un règlement de construction. Donc, si on enlève le code, on l'enlève pour tout le monde.
Non, il y a l'enjeu.
Mais là, quand on dit le code de construction obligatoire, non. La loi architecte, ça implique quoi exactement pour Mme Côte-Noire?
Bien, ça l'implique d'engager un architecte puis de faire les plans au complet par un architecte. Puis ça l'implique aussi que les travaux devront être absolument faits conformément aux plans ces architectes. Tandis que s'il n'y a pas de construction, mettons une municipalité qui n'applique pas le code, qui dit nous le code, on s'en occupe pas. Le dossier pourrait, s'il n'y a aucune construction ou rénovation dans l'immeuble, pourrait juste avoir un changement d'usage sans passer par un architecte.
Mais là, présentement, de la manière qu'elle parle, elle n'a pas de rénovation, elle n'a pas de construction à faire.
C'est ça. Fait que ça, j'ai pas besoin d'exiger des plans d'architecte. Mais pour un changement d'usage, si le code est obligatoire pour faire l'étude de code, la municipalité, dans le fond, a le devoir d'exiger des plans pour s'assurer que le bâtiment est conforme au code, parce que votre règlement le spécifie. Et ces plans-là devront être faits par un architecte, parce que la loi sur les architectes dit que tout bâtiment qui a plus d'un usage, qui est plus grand que 320 carrés d'étage hors sol.
OK.
Ce que le bâtiment est plus grand que ça. C'est
ouais.
Donc, si on fait un changement d'usage, automatiquement, il faudrait avoir tous les détails de quel commerce va habiter le bâtiment.
Ben oui et non, parce que, ben, moi, c'est un conseil que je vais donner à Mme Côte-Noire, c'est de faire ça comme ça, parce que sinon, c'est une étude de code à chaque fois.
Okay.
À chaque fois qu'on va rajouter un usage, il va falloir refaire l'étude de code au complet par un architecte. J'avais dit, ben, faites-le tout d'une shot, puis ensuite, au pire, phasez le projet, puis vous allez avoir votre étude de code pour l'ensemble du projet quand même. Là.
OK. Parce que l'ajout d'un dépanneur...
L'économie d'énergie,
Parce que l'ajout d'un dépanneur, tout dépendait des heures d'ouverture de chaque entreprise qui va être à l'intérieur peuvent varier. Donc, ça va prendre de la construction peut-être à l'intérieur pour diviser les commerces.
Bien là, s'il y a de la construction, l'architecte est obligatoire de toute façon. Code, pas code, il faut que je demande à un architecte.
Puis tu disais tantôt, si on n'a pas de code, nous, dans la municipalité, bien, on n'est pas obligé de demander à un architecte.
Mais c'est parce que la loi, c'est les architectes, ça s'applique seulement si la municipalité demande des plans. Si je ne demande pas de plans, que c'est juste juste un usage. Mettons, on prend le bâtiment dans l'ancien, on dit, ben voici, moi, je fais mon changement d'usage chez tous mes usages, puis que j'ai pas de code à appliquer, ben j'ai pas besoin de demander des plans, donc la loi sur les architectes tombe. Je sais pas si je suis clair, là.
OK. Mais si...
La loi sur les ingénieurs, je l'applique si la municipalité oblige des plans à l'ingénieur.
Mais si on fait ça, point de vue des assurances, eux autres, quand ils vont voir assurer leurs entreprises à l'intérieur, on va-t-il avoir des demandes spécifiques de l'assureur?
Nous, non. Comme ville, non. Ça, c'est à la charge du citoyen propriétaire. Sinon, nous, la ville, il n'y a aucun recours possible ou des demandes faites. Okay. Le citoyen, le propriétaire, dans ce cas-là, le groupe de propriétaires, je ne sais pas comment ça fonctionne, devra eux-mêmes, si l'assureur dit « moi, c'est pas assurable », ben, c'est pas assurable. C'est tout. Nous,
OK. Si l'assureur dit « ben moi, je ne peux pas l'assurer parce qu'il ne respecte pas le code selon les commerces qu'il va avoir à l'intérieur », ben, ils vont vivre dans un bâtiment qui ne sera pas assuré.
C'est ça.
La municipalité n'a pas de responsabilité là-dedans, n'a pas de lien là-dedans, ça exclut.
C'est ça. C'est okay. Ça. Il y a beaucoup de municipalités qui n'appliquent pas le code. Bon, moi, je suis entre les deux. Là. J'en fais des deux. On en écrit des règlements, puis on est entre les deux. C'est sûr que à partir du moment où le code est mentionné dans le règlement, ben, excusez l'expression, je ne peux pas être à moitié enceinte. Donc, il faut que j'applique le code au complet.
Mais dans un bâtiment comme celui-là, qu'eux autres vont faire des commerces, ils ne seront pas obligés d'avoir une toilette, ils ne seront pas obligés d'avoir...
les installations sceptiques.
Bien, là, s'il y a de la construction et que je suis obligé de demander un plan, bien, lui, l'architecte, il ne peut pas faire un plan qui est non conforme au code. Donc, okay. L'étude, façade de rayonnement, salle de bain obligatoire, si ça en prend pour mobilité réduite, ça va tout devoir passer par là.
OK. Donc, si on le fait sans code, bien, eux autres vont vivre avec les conséquences de... Ils vont-ils être capables de faire une toilette ou pas? Ils seront pas capables de faire une toilette?
Il n'y a pas de toilette dans ce bâtiment-là, comme c'est là.
Il y en a une.
Il y en a une qu'une. Faut être vivre avec. Parce que dès que je demande des travaux de construction, dès qu'une construction qui est là-dedans, je dois demander des plans pour être conforme à mon règlement.
OK.
Pas donner de travaux de réno juste en disant je me fais un mur. Il faut quand même qu'ils nous démontrent des croquis. Mais à partir de ce moment-là, comme j'exige des plans ou croquis pour expliquer les travaux, c'est que là, je suis obligé d'appliquer la loi à ces architectes.
OK. Fait que s'ils font un réaménagement à l'intérieur avec un comptoir, des tables, des chaises, ça reste pas de la construction, ça reste un aménagement. Donc ça, ils n'ont pas besoin du code.
Okay. Du béton, ou n'importe quoi, je sais pas quoi là, mais tu sais, quelqu'un qui installerait des armoires là-dedans, c'est comme du mobilier. On n'a pas besoin de plan, puis il n'y a pas de construction. En fait. La personne installe bien ce qu'elle veut. Là.
Du côté architectural, là, les portes, là, s'ils veulent mettre des portes, mettons vitrées, ils sont mieux de ne pas toucher à rien de ça?
Non, parce que je suis là, c'est ça.
Un remplacement de porte. J'exigerais pas vraiment des plans. T'sais, si on prend la porte et on met la même porte, la même grandeur, on touche pas la structure.
OK.
Mais okay. Si on modifie la dimension d'une porte ou d'une fenêtre, là, on vient de toucher la structure, c'est différent.
Exact. Je vais aller vous la lire. Là. Le paragraphe sur la loi, c'est les architectes de l'OR, il est pas long, là. Je vais pas essayer d'ouvrir, donnez-moi deux petites secondes.
J'écoute.
Les architectes.
Je peux dire quelque chose, là, pour les portes puis les fenêtres, on n'a pas le droit de toucher à rien parce que c'est un patrimoine.
C'est patrimoine,
on ne change rien de ça.
Okay.
Tout ce qui est porte, fenêtre, tout ce qui est vu de l'extérieur, on n'a pas le droit de toucher à ça.
Okay.
Moi, ma question, je vais te laisser fouiller, là, après ça, je vais avoir une question.
Okay. C'est l'article 15 qui dit consiste à exercer une activité. L'exercice de l'architecture consiste à exercer une activité d'analyse, de conception ou de conseil appliqué à la construction, agrandissement, modification d'un bâtiment, en ce qui a trait à son implantation, enveloppe, aménagement intérieur, ainsi qu'aux matériaux et aux méthodes.
OK.
Ça veut dire que dès que je touche à de la structure, ça me prend... c'est aussi simple qu'une industrie qui dit « je vais me rajouter une porte de garage ». okay. plan d'architecte.
OK. Nicolas, j'aurais une petite question pour toi. Mettons, pour permettre à Mme Cotenoir d'ouvrir son, son café ludique, présentement, qu'est-ce que la municipalité doit faire pour lui permettre la chance d'ouvrir son commerce?
Ouais, c'est de faire la modification réglementaire.
Modifier le règlement pour retirer la mention qu'il faut respecter le code de construction.
Exact.
Puis ça...
Puis là, après ça, il y a d'autres choses. Une analyse devra être faite aussi en matière de stationnement, de sceptique, ces choses-là.
Ça, c'est malgré qu'on retire la mention du code de construction, tout le reste, ça reste là.
Ben là, oui, c'est ça. Le reste peut se gérer. Mettons là, on jase. Je sais pas, moi, il manque du stationnement. Ben ça peut être géré par dérogation mineure. Après ça, mais le côté sceptique, lui, devra absolument passer par un ingénieur.
Ouais.
Pour le calcul de la capacité hydraulique du système.
OK. Benoît, il y aurait une question pour vous, Nicolas.
Bonsoir, M. Plot. Benoît Cotenoir, je suis président du l'OBNL qui gère le bâtiment de l'église. Fait que je me suis présenté. Maintenant, je voulais savoir si, en attendant, pour les questions de coûts, parce qu'on n'a pas les moyens financièrement parlant, on essaie d'opérer des commerces comme le café ludique ou autre chose qu'on va essayer de faire, comme on a fait un spectacle un mois à l'intérieur. C'est tout pour amasser des fonds pour nous aider à faire vivre ce bâtiment-là. Il n'y a pas de construction en vue. On est déjà quand même un peu au courant qu'on n'a pas le droit de toucher à rien sans avoir la permission de le faire. L'autre question, c'est pour les toilettes, les installations septiques. Lors du spectacle, on avait installé des toilettes portatives. Est-ce qu'on peut opérer avec des toilettes portatives, mettons, pour les mois, les années à venir, peut-être, là, dépendamment des moyens qu'on aura pour avant d'installer des installations septiques? Est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Malheureusement, non. Dès qu'il y a un changement d'usage, je dois m'assurer que le septique est conforme. Ça, c'est dans la loi sur l'environnement. Puis on ne peut pas y déroger, c'est une loi provinciale pour celle-là.
OK.
Si c'est événementiel, exemple, une journée, je ne sais pas, on utilise le terrain pour une fête de village, aucun problème. Vous pouvez installer des toilettes portatives. Mais si j'en accorde un usage à un bâtiment, à partir de ce moment-là, je n'ai pas le choix, le septique vient avec. C'est le côté plat des installations septiques. Fait que, tu sais, lui aussi, ça serait peut-être bien de rassembler l'ensemble du projet pour faire un calcul une fois. Trop fort, casse pas. C'est quand même un ingénieur, celui-là aussi.
OK. Parce que nous autres, présentement, on est en train de, avec la firme MIR, probablement que tu connais la firme MIR.
Non.
L'entreprise MIR qui ont chapeauté, je pense, le projet de Warreville, à l'église Warreville, puis je pense qu'ils ont pris en main présentement Saint-Malo et Saint-Edward, je pense.
C'est possible.
C'est à Sherbrooke. OK, non, ben j'ai rien pour te le montrer, là, mais c'est ça, nous autres, c'est ça qui nous proposait de monter un dossier qui pourrait prendre quand même plusieurs années. Mais entre-temps, bon, on va essayer de survivre avec les moyens qu'on a. Il y a quand même une bâtisse à faire vivre, il y a des, comme j'appelle ça, l'épicerie à faire, il y a le chauffage, l'électricité. C'est pour ça qu'on fait des activités pour être capable de ramasser des fonds, pour être capable de subvenir à nos besoins en attendant, là. Fait qu'on fait un minimum, on n'a pas fait de construction ou quoi que ce soit, c'est un minimum. On travaille avec les matériaux qu'on a en place présentement à l'intérieur. Pas les matériaux, c'est l'immobilier qu'on a là. C'est seulement ça qu'on fait, comme c'est là.
C'est sûr que si, mais à partir du moment où j'ai une demande de permis de changement d'usage, j'ai pas le choix, malheureusement. Je comprends toutes vos
choses. Bon, ben, regarde, on va poser la question d'une autre manière. C'est quoi qu'on est obligé de faire absolument à partir d'aujourd'hui pour être capable d'opérer quelque chose?
Fosse sceptique.
Il y a juste la fosse sceptique.
Ben, là, je sais pas s'il y a un système sceptique qui... Ben, là, en date d'aujourd'hui, là, sans modification réglementaire, vous devez me fournir un plan d'architecte démontrant la conformité au code de l'entièreté du projet, puis l'installation sceptique.
On avait quelque chose qu'on avait envoyé.
Mais là, je sais pas, il y en a-t-il une installation peut-être qui est bonne, peut-être que... Je sais pas
L'ancienne installation sceptique qui était là, c'était raccordé avec l'ancien presbytère. C'était le champ d'épuration qui appartient au presbytère. Fait que, veut pas, nous autres, il faut déconnecter de l'eau.
Ouais, c'est ça. Ça va amener ça, malheureusement. Fait qu'effectivement, il va y avoir une étude qui devrait être faite là-dessus. Fait qu'encore là, allez-y avec la tu sais, comme je disais, peut-être mieux de rassembler votre projet. Comment vous le voyez au final dans 5-10 ans? Et dire, ben, au pire, on va phaser tout ça.
Ça, puis ça nous empêcherait d'opérer pour 5-6 ans, 7 ans? On n'aurait pas le droit de rien faire, en principe, à l'intérieur.
Ben, tant et aussi longtemps que... En principe, non. C'est
parce que présentement, on a une entente avec les propriétaires du presbytère pour se servir de leur champ d'épuration. Une entente écrite avec eux autres, qui nous ont donné la permission, mais pour un temps limité. Est-ce que c'est valide ou pas, ça?
Non.
OK. OK.
Donc, il n'y a pas un ingénieur qui va aller certifier que c'est
conforme. OK.
J'ai une question. Mais là, ce que tu dis, c'est-tu si... Comment tu as appelé ça, le code de construction qu'il y a ici? Comment tu as appelé ça tantôt?
Le code de construction du Québec.
Mais qu'il y a ici, mais que... Comment tu as dit ça tantôt? Tu as appelé ça...
Le code du bâtiment?
Le code du bâtiment, mais que là, si...
Ah, dans le règlement de la municipalité.
Dans le règlement de la municipalité, si il est comme enlevé, comme tu disais, là, on peut-tu faire quelque chose?
Non.
Pas là, plus?
C'est qu'il échappera pas.
Non, mais je veux dire, oui, on n'échappera pas parce que... Je te l'ai dit la semaine passée, on va les faire, les affaires. Mais ça nous empêche, ça nous permettrait-tu de pouvoir commencer quand même? D'avoir, mettons, d'avoir le permis puis de pouvoir commencer à faire quelque chose?
Ben oui, ça va permettre de faire l'analyse, de déposer une demande de permis puis de. Là, c'est sûr, j'ai pas fait toute l'étude au complet parce que ça avait accroché. Parce qu'il y a la notion des stationnements, ces choses-là. Les stationnements, c'est moins pire parce qu'on peut toujours aussi y aller en dérogation pour ça. Mais la procédure de je peux pas déroger au règlement. Fait que là, c'est le processus de modification qu'il faut faire pour le règlement de construction. Fait que l'étude, je sais pas, il faut faire définir c'est quoi tous les usages, puis régler le stationnement, puis ça, c'est pas le bout qui est stressant. Mais oui, effectivement, si, mettons, la municipalité dit moi, j'enlève le code de construction, mais ça sera pas maintenant, parce qu'il faut attendre que la procédure soit finie. De modification qui est entre, je vous dirais, c'est quasiment 2 mois, mais après, je vais être en mesure de délivrer un permis.
Mais là, ce que j'ai compris tantôt, c'est que le permis pourra être émis, mais il faut que les installations septiques soient conformes quand même, parce que dans ça rend plus...
C'est ça, dans tous les cas, mettons quelqu'un qui achète une maison et qui décide que c'est plus une maison, il fait un dépanneur dans la maison. Ben, même si le septique est neutre, il doit repasser de conformité. Je dois avoir le débit suffisant pour l'usage. Dès qu'il y a un changement d'usage, je dois avoir l'installation septique qui est conforme à l'usage qui est dedans.
OK. Puis, autre question. Admettons que le café ludique faisait... parce que pour les demandes de permis qu'on avait demandé pour les permis de boisson, fallait leur séquencer des événements. Je ne sais pas si tu es au courant comment il fonctionne. Est-ce que si nous autres, on arrivait et on dirait que pour telle fin de semaine, c'est des événements précis pour chaque fin de semaine, ça nous donne sous le droit d'installer des toilettes portatives pour chaque événement, pour chaque fin de semaine qu'on créerait?
Ben là, ça serait événementiel, mais il faudrait comprendre aussi. Là, on joue ses mots.
On joue ses mots, exactement.
Non, mais je veux dire par là, c'est parce qu'en principe, l'usage, c'est une église.
Ben, elle est désacralisée.
Ouais, mais je veux dire, tu sais, il y a des événements dans les églises quand même. Tu fais qu'est-ce qui. T'sais, si c'est pas un usage. Celle-là est dure, honnêtement. C'est une bonne celle-là.
Désolé.
Ça doit être pour ça qu'ils m'ont demandé. Ça doit être pour ça que j'ai été invité pour la réunion.
Mais c'est parce que. Tu sais, il faut rester dans l'usage culte. Puis là, culte, ça peut devenir large un peu. C'est exemple, je sais pas, moi, un spectacle de excuse-moi, je sais pas comment ça s'appelle, là, une chorale. Bon.
Oui, mais regarde, la semaine passée, le mois, on avait un spectacle country. Là, tu me dis que ça n'aurait pas passé, ça, pour un événement?
Ben, c'est parce que là, il n'y a pas de réglementation qui prévoit ça. La suite logique serait non, mais Mais je veux dire, les églises ont toutes à l'occasion loué le sous-sol pour des événements puis des choses comme ça, puis il n'y a jamais personne qui court après ça, tu sais, pour aller cogner à la porte le samedi puis dire, vous n'avez pas d'affaires ici. Mais ça reste que l'usage principal du bâtiment, c'est le culte. Mais c'est ça. Toutes les sous-sols d'église, d'ailleurs, du Québec, des villages sont toutes à louer pour des événements.
Oui, mais ce bâtiment-là, il étant désacralisé, on ne dit plus culte. Là. Le bâtiment d'église, c'est fini,
ouais.
Là, église. Là.
Oui, je suis d'accord, mais ça reste que l'usage actuel est quand même du lieu de culte, mm-hmm. parce qu'il n'a pas perdu son droit acquis. Là,
je la comprends pas, celle-là. Là. Parce qu'on a...
Il est considéré, au niveau de la taxation, comme centre communautaire.
Oui, c'est ça, mais moi même.
Mais il n'y a plus de culte, là. Une fois que quand le bâtiment a été vendu, étant désacralisé, il n'y avait plus de cérémonies religieuses qui pouvaient y avoir lieu.
On a même dans les contrats, excusez Mme Bergeron, on a même dans les contrats avec l'évêché une défense de faire quelques événements qui se rapprocheraient à du culte à l'intérieur. C'est signé dans les contrats.
Fait qu'il y avait un changement d'usage à ce moment-là.
Dans toutes les cas. Fait que en tout cas, le changement d'usage aurait été fait à l'interne au niveau de la taxation, mais pas au niveau des permis? Au niveau des autorisations?
C'est que la taxation, mais ça, c'est complètement séparé du zonage. C'est deux départements complètement différents, puis ils se parlent pas, là.
OK.
La personne qui évalue, elle, selon son syndic, est obligée d'évaluer ce qu'elle voit lors de sa visite d'inspection, d'évaluation.
Oui.
Elle a dit... Exemple, je vais vous donner un exemple, ça m'arrive. Cantonnier mal chaussé. J'ai jamais fait mon changement d'usage pour mon bureau à domicile. Ça fait des années que je paye les taxes pour un local commercial. Puis là, je viens de recevoir la lettre que je ne suis pas conforme à la réglementation. C'est pas être de même, là. Sauf que l'évaluateur, lui, quand il est venu, il a vu qu'il y avait un bureau, il l'a rajouté dans son évaluation. Mais ça fait pas. Ça fait, c'est pas ça qui vient conformer un zonage. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis.
Ouais.
Ben, je comprends cette partie-là. J'essayais juste de parce que j'ai fait des vérifications aujourd'hui pour voir de quelle façon il était considéré au niveau de le bâtiment était considéré au niveau de la municipalité en sachant que c'était désacralisé. Puis c'est pour ça là, que je suis un peu surprise là, d'entendre que le changement d'usage n'a jamais été fait officiellement, donc c'est toujours considéré comme un lieu de culte au niveau
urbaniste,
c'est ça. Mmh.
Ça, il faut le demander. Tu sais, exemple, quelqu'un qui a un duplex qui décide qu'il transforme ça en unifamilial, qui ne demande pas son changement d'usage à la ville, peut payer des taxes pendant des années, tu sais, un duplex en étant un unifamilial. L'inverse aussi, là, je veux dire, mais s'il demande, on va le régler, mais tu sais, il y en a beaucoup, là, du monde qui avait des logements au sous-sol, qui ont juste arrêté de louer, ils ont remis une porte, puis ils l'ont pas dit à la ville, puis voilà, ils sont encore en duplex.
Je comprends. Fait qu'en partant, ça nous prend le changement d'usage en partant. Pour retirer le lieu de culte.
C'est ça.
Puis ensuite, le changement d'usage pour que ça devienne...
C'est ça, puis c'est parce que c'est pas un changement de propriétaire qui amène nécessairement un changement d'usage. C'est pas... tu sais, je peux acheter un triplex, j'en fais un duplex, puis... ça change rien. Tu sais, c'est pas... Faut que la personne le demande. Puis une église qui a pas de travaux, une personne s'en soucie, on passe en avant de ça, puis... Je veux dire, on la regarde sur l'église. C'est sûr que si on avait vu des travaux, on était en train de faire, on aurait passé, on aurait envoyé un avis d'infraction, on aurait forcé les propriétaires à faire leur changement d'usage. Mais là, il est resté tel quel. Je veux dire, ça aurait dû être demandé là. Mais lui, l'évaluateur, il n'a pas besoin de son permis de changement d'usage. Lui, dès qu'il y a une modification, il a fait.
Je comprends.
J'aurais une question pour vous, Nicolas.
Oui.
Ça travaille tout le temps dans ma tête, là. Mettons là, que. Le comité, il décide de s'acheter un food truck.
Ouais.
Un food truck, on est en train de changer la réglementation pour permettre d'avoir un food truck. Est-ce qu'il pourrait l'opérer sur le terrain?
Il faudrait voir si vous avez une réglementation sur le food truck. Là, parce que là,
on est en train de la
modifier. On est en cours d'adoption. Là.
Pour le permettre.
Ouais. J'avais entendu parler. Là.
Ouais.
Si un règlement c'est food truck, on va appliquer le règlement.
Okay.
Est-ce que le food truck dans votre modification réglementaire que vous avez entamée est inclus dans toutes les zones ou c'est des zones spécifiques?
C'est dans, spécifiques? dans toutes les zones, sauf les zones de la CPTAQ.
Les zones où c'est pas permis. Où est-ce que c'est pas permis? Je m'en rappelle plus par cœur, là, mais...
Ben, c'est sûr qu'en zone agricole, c'est pas permis, là.
Non.
C'est ça.
Mais à l'église, si la zone n'est pas exclue, ben oui, ça va pouvoir être opéré. Puis là, c'est de voir si dans votre réglementation, vous avez des genres de fin de semaine. Des fois, ils mettent ça, les certaines municipalités vont mettre des périodes, genre événementielles pour trois fins de semaine par année, exemple. Il y en a que c'est juste ouvert à tout l'été. Il y en a que c'est... Ça dépend, je l'ai pas vu, votre réglementation.
Quoi d'autre, on l'avait ouvert, là, tout l'été, là.
OK. Ben, il y avait le droit, en respectant votre réglementation, il y avait le droit.
OK. Bon, ben, mettons, elle pourrait... Mettons, le monde pourrait aller manger à l'intérieur du bâtiment, sans aucun problème.
Ben, ça reste qu'il faut un changement d'usage, quand même.
Ouais.
On y échappera pas bien.
Ouais. Ah non, c'est non. On a beau essayer de tourner la question à plusieurs reprises, mais c'est ça. Hein?
Mais dans le changement d'usage, là, c'est quoi qui serait le plus largement accepté pour le bâtiment, dans le sens où, un peu comme un centre d'achat avec plusieurs boutiques? Parce que souvent, tu vas voir ça dans un centre d'achat, il va y avoir une tabagie, il va y avoir une bijouterie, il va y avoir un petit resto, il va y avoir... Si eux autres, dans leurs optiques de rentabiliser le bâtiment, c'est de pouvoir avoir un dépanneur, d'avoir un petit resto bistrot, bien, si on fait un changement d'usage, bien, ça serait... Idéalement, ça serait d'essayer d'englober le plus d'affaires qu'ils peuvent faire. S'ils en font moins, c'est pas grave. Mais s'ils veulent ajouter une ou deux affaires après, c'est sûr qu'ils vont être obligés d'y aller avec une vérification puis le champ d'épuration. Puis, ben, ils vont être obligés d'en faire un champ d'épuration puis une fosse septique. Mais là, ça serait quoi qui serait le mieux pour eux autres? Comme ça, ça lui donne une liberté de pouvoir faire quelque chose qu'il n'avait peut-être pas pensé, puis que là, ça pourrait amener plus d'argent pour faire vivre le bâtiment.
Bon, merci.
Je check tous les usages un par un, qui consiste en quoi.
C'est assez complet.
C'est long. Je m'excuse, M. Plourde, parce que M. le maire va entre les mains la grille de spécification pour la zone M2. Ah. Fait que là, il voit des choses, mais je veux juste préciser que malgré toutes les X qu'on peut voir sur une grille de spécification, chaque case amène d'autres spécifications.
Oui, il reste qu'il y a la question de zonage s'applique quand même.
C'est ça. Parce qu'on fait juste dire, par exemple, le 6A, qui est un établissement de restauration. Bien, 6A, ça inclut brasserie, restaurant, salle à manger, salle de réception, cafétéria. Après ça, 6B, ça inclut autre chose. Fait que quand on dit aller cocher toutes les cases, bien, c'est chaque case a une liste.
Ben, là, ouais, c'est ça. Ben, là, je dis ça, toutes les cocher, c'est un peu extrême. On peut les prendre une par une et dire, bien, ceux-là...
Celle-là s'applique, celle-là s'applique pas.
Ouais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était la possibilité, je vous
disais. Ben, c'est comme que je voulais, là, mettons, dans le 4D, établissement de services artisanaux. Tu sais, éventuellement, vous pouvez parler peut-être de quoi d'artisanal.
Ben, c'est comme c'est là, ce qui était prévu au départ, c'était faire une partie musée à l'intérieur pour conserver le patrimoine qui est déjà à l'intérieur. Il y avait été question d'avoir une salle pour les métiers. Les métiers sont déjà tous arrivés. Beaucoup de matériel est déjà arrivé, puis c'est déjà en train de s'installer. Ça, c'était une autre salle. Il y avait l'ancienne chapelle qui sert déjà pour des réunions. Puis là, ben, il y avait l'autre qui était la sacristie anciennement qui deviendrait le café ludique. Comme c'est là, il y a déjà tout ça en marche à l'intérieur de la bâtisse. Puis la salle qui sert de musée, comme c'est là, qu'on veut faire le musée avec, parce que là, on veut faire des études avec ça plus poussées pour faire de quoi de présentable agréable et tout, ben, attirer le monde, ben, c'est la salle de spectacle en même temps, c'est l'église elle-même. Là. Fait que, dans le fond, il y a déjà ces usages-là, là, de pas tout fonctionnel encore, mais en marche comme c'est là à l'intérieur. Là.
Non, ben c'est comme je dis, je l'ai entre les...
Le schéma d'aménagement s'applique plus ou moins parce que c'est dans le PU. Je vous conseille quand même, à moins d'aller y apporter des usages agricoles et industriels, comment tout le reste peut être...
Bon, c'est tout... Il y a un entreposage extérieur et produits dangereux.
Il y a des affaires de même qui vont accrocher, mais on est dans le détail.
Ah, c'est ça, ouais. On est vraiment dans le détail parce que le restant, c'est toutes des possibilités qu'ils peuvent faire dans la bâtisse, là.
Ouais, on peut pogner une classe, on peut les contingenter aussi, tu sais, il y a plusieurs façons de jouer des grilles, on peut mettre un maximum, on peut tout autoriser puis mettre un maximum d'usage, on peut prendre un groupe d'usage puis aller faire une spécificité dans la grille de zonage qui dit oui, si on veut tout ça, si on veut cette petite ligne, on peut l'enlever,
okay.
Il y a plusieurs manières, une grille de zonage, on peut jouer, mais surtout en périmètre urbain même.
Ok, c'est bon.
Si on devient un immeuble locatif pour différents groupes qui voudraient louer la bâtisse, y a-t-il d'autres spécifications à respecter? Exemple, mettons, je donne un exemple, un salon funéraire, une grosse gang, parce qu'on les a approchés, le salon funéraire, pour faire des services d'après funérailles pour les... comment dire ça? Les cérémonies d'adieu. Bon, au lieu d'être fait d'un salon... qui ont 50 places ou moins, qui n'ont pas de place. Des fois, tu as des grosses familles, on a offert, puis les salons semblent être intéressés. On aurait-tu le droit de louer la place?
Ben là, aujourd'hui, je ne sais plus, là, j'ai assez de pages ouvertes. Mais ça serait possible de te mettre, le schéma d'aménagement le permet, mais après ça, c'est la volonté de la municipalité.
OK. Puis dans le fond, notre seule restriction à date, si j'ai tout compris depuis le début, c'est les installations septiques qui ne sont pas là.
Le changement d'usage.
Puis le changement d'usage.
Le changement d'usage, puis là, de voir ce qu'on fait avec le code.
OK. Mais si on change absolument rien dans les structures du bâtiment, on n'a pas vraiment besoin de passer par les architectes, comme c'est là.
Exact.
En date d'aujourd'hui, oui. Parce qu'il y a un changement d'usage, je vais vous exiger des plans, mon règlement m'oblige à exiger des plans d'architectes.
OK, OK. Fait que d'une manière ou d'une autre...
Si on change, on va se conformer à la loi, au code du bâtiment, comme c'est là.
OK. Puis là, tu sembles dire tantôt...
Puis je continue à régler, là, c'est non, parce que l'usage est resté le même.
Ouais. Puis là, tu disais que si on fait un changement d'usage, je veux pas, il n'y a rien à espérer avant minimum 2 mois. Là.
Ben là, il faudra voir la procédure de modification réglementaire quand est-ce qu'il est parti. Là, tu sais, pour le prochain conseil, je pense que c'est pas mal mort. Fait qu'on s'en va à l'autre. La bonne nouvelle, parce que moi je trouve, là, tu serais peut-être pas d'accord avec moi, c'est que c'est la procédure courte.
Oui.
C'est pas une procédure longue avec aussi qu'il y a un risque de référendum et toutes les patentes. On est vraiment juste. Le règlement de construction, lui, se modifie par le conseil sans rien.
Okay.
C'est une procédure facile, mais il y a les délais qui sont prescrits par la LOU qu'on n'y échappe pas.
OK. Fait qu'en deux mots, ça dit qu'on ne peut à peu près rien faire à l'intérieur pour l'instant.
Pour l'instant, je suis obligé de vous dire non.
OK.
Puis le délai? Mettons, là, à soir, on fait du spécial, on a une demande de changement d'usage.
Il faudrait que je trouve ma LAU, là, mais il me semble que ce serait ça, c'est 2 mois à peu près. Ben, je pense qu'il faut faire quand même un avis public, on serait trop tard pour l'autre séance. fait que là, on sort à l'autre séance d'après, il faut faire la modification aussi. J'ai pas le tableau, là, mais c'est environ 2 mois.
Parce que là, il y a l'avis public, après ça, il y a la présentation l'avis de motion, dépôt du projet de règlement, puis à la réunion suivante, on pourrait, s'il n'y a pas de demande de modification, adopter le projet. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, là. Mais je sais qu'il y a des délais d'avis.
Mais là, c'est parce qu'il y a le délai, il faut quand même publier aussi, c'est ça le délai. Là.
Puis il faut modifier le règlement aussi, là. Pour avoir le temps de le modifier.
C'est la MRC, pour l'envoyer à la MRC qui le modifie. Fait que c'est tout ça. C'est 2 mois, je dirais.
Minimum 2 mois, oui.
Ouais, disons.
Puis ça prend. Les ça se prend de quoi spécifique à l'intérieur, signé par un architecte, comme de quoi que chaque local va servir à telle chose. C'est ça que tu me disais, là.
Comme c'est là, oui.
OK.
Si on ne fait pas le changement, si on ne fait pas le changement à notre code de...
Si on ne retire pas le code du bâtiment,
si on ne retire pas le code, oui, du bâtiment de ce bâtiment-là.
Non, non, si on le retire, on le retire de toute la municipalité ou juste là?
Non,
de tout le règlement.
De tout le monde?
Oui.
Ça fait que c'est pas de quoi vous allez faire.
Mais c'est quoi l'impact?
Ça, c'est une décision qui va être prise. Ouais.
C'est quoi l'impact de retirer ça? On parle pas juste pour le lieu à côté, là. On parle pour l'ensemble de la municipalité. Qu'est-ce que ça implique de retirer cette réglementation-là ou cette annotation-là au règlement?
Ben, ça implique que les pompiers vont peut-être moins contents un peu. Ça implique le code, c'est que... bâtiments vont plus se conformer à ça. Ça veut dire que ça va commencer à être dur. T'sais, on ne pourra pas prendre un bâtiment en soi et dire, ben toi, tu te conformes, je ne pourrais même plus l'exiger. Si j'ai des garde-corps non conformes, exemple, au deuxième étage, ben, ou à moins de rajouter juste certaines dispositions du code dans le règlement, ce qui peut être fait, mais c'est ça. Moi, s'il n'est pas là, je ne peux pas l'exiger, puis s'il est là, il faut que je l'exige. Fait que l'implication de l'avoir, c'est que vous avez des bâtiments qui sont conformes au code. Au niveau service incendie, c'est toujours optimal. Après ça, c'est sûr que nous, quand on fait nos visites d'inspection, par exemple, ben, si le garde-corps est passé haut au deuxième étage, ben, on met en infraction par rapport au code du bâtiment, toujours. Après ça, l'autre implication, c'est que ça implique...
d'avoir des maisons tout proches.
Ben, ça ouvre une porte, c'est sûr.
Il y a des
avantages et des désavantages des deux côtés. T'sais. C'est sûr que vu dans mon bureau ici, moi, quand j'ai pas le code, honnêtement, ça allège ma job beaucoup, là. Mais, puis surtout, ça vient à ce que je disais, c'est quand on applique le code, on peut pas l'appliquer juste à moitié. Ça veut dire que quand on ferme, mettons, une maison neuve, il faut aller s'assurer que les fenêtres de chambre sont conformes au sous-sol, au premier étage, deuxième étage, il faut s'assurer que les gardes-corps sont là, il faut s'assurer que j'en ai mes gardes-corps, c'est les exemples les plus flagrants qu'on voit. Je dois m'assurer que l'isolation minimum des murs est là, dans le grenier. C'est sûr que c'est vraiment plus optimal. Tandis que là, s'il n'y a plus de code, là, l'inconvénient que ça l'emmène, c'est quelqu'un qui me fait une fenêtre de chambre au sol pas conforme, mais j'ai rien pour aller dire. Il va y avoir juste le pompier qui va pouvoir aider pour ça, parce que c'est vraiment au niveau sécurité. Mais
là, tu perds le contrôle de ta municipalité.
Ben, le contrôle de la qualité des constructions, c'est tout le contrôle de la municipalité, effectivement.
Ça peut changer la différence des gens.
On a eu tellement de problèmes avec ça au 4 ans que ça ne me tente pas de...
Mais c'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que, supposons qu'on irait dans cette voie-là de sortir cette mention-là au règlement, est-ce que c'est à partir du moment qu'il est sorti, c'est-à-dire, dans le fond, un bâtiment qui serait aujourd'hui conforme, qu'il ne l'était pas avant, mais qu'il le deviendrait par conséquent? Je ne sais pas si ma question est claire, là. Un bâtiment qui était non conforme avant... On enlève le code, il deviendrait conforme automatiquement?
Pas mal. En termes de construction.
Oui.
En termes de zonage.
Non, je parle en termes de construction.
Oui, juste en termes. Exemple, si j'ai envoyé des avis d'infraction la semaine passée pour des gardes de corps passés manquants, exemple, au deuxième étage, ben, si on enlève le code, il faut que je prenne mes avis d'infraction et je les rattrape.
OK.
Puis si.
Je
ne
sais pas s'il y en a une partie.
Là, non, mais c'est
un.
Si quelqu'un demande un permis de construction, ben il n'y a quasiment pas besoin de présenter un plan. Tu es obligé d'y accorder parce que tu n'as rien à vérifier.
On peut quand même exiger le plan.
OK. Ben,
je ne voulais pas y dire, ça, c'est pas conforme au code.
C'est ça.
Mais j'exige le plan quand même parce qu'on peut garder le plan. Ça, c'est un règlement permis certificat pour le plan. C'est pas dans le règlement de construction. Fait que je pourrais dire, ben tu me fournis quand même des plans faits par un professionnel. Mais si je vois le plan, il y a une non-conformité au code, je peux quand même appeler le professionnel et dire, je suis sûr qu'il va corriger parce qu'il va quand même son assurance. Okay. Mais normalement, moi, je peux pas exiger. Si le gars me dit, je mets un garde-corps de 24 pouces au deuxième étage, à moins d'avoir mis l'article spécifique du code. Parce que certaines municipalités vont garder des choses comme les fenêtres de chambre, ils vont les garder quand même dans le règlement de construction. En disant, on n'applique pas le code, Mais ces articles-là du code concernant les fenêtres, les rampes, les affaires, le même, on les garde. Ça, on peut faire ça aussi. Après ça...
Est-ce que je peux poser une question?
Lucie, elle a une question, Nicolas.
Oui, une petite minute. Je vais juste revenir. Ma phrase vient d'apprendre.
OK.
C'est pas parce que la municipalité enlève le code que le citoyen n'a pas appliqué le code quand même. Je ne sais pas si je suis clair.
Mm-hmm. Oui.
C'est juste que moi, je ne peux pas le forcer. Mais le citoyen qui se construit et qui est non conforme au code, en principe, il n'y a pas de droit. Là.
Je comprends.
Mais, qui va y dire? C'est là. C'est un entrepreneur qui a quand même respecté le code. Lui, il est assuré au privé. Il ne peut pas dire, bon, le code, s'il arrive de quoi dans la maison, c'est lui qui va être responsable.
Ouais. C'est bon.
Parce que...
Je vais prendre la question. Je suis rendu là.
Parce que tu me disais, Nicolas, la semaine passée que les Saint-Herminégil avait ce code-là, mais les autres municipalités n'avaient pas ce code-là. S'il est important, comment ça se fait que les municipalités n'ont pas ce code-là?
C'est souvent administratif la raison pour l'enlever. C'est souvent dur de trouver du personnel compétent pour appliquer le code. Parce que le code, c'est une bible. C'est vraiment gros. Moi, je le connais parce que c'est des formations. J'ai étudié en architecture avant d'être en urbanisme. Mais dans les faits, beaucoup de. Je fais passer des. Je vois dans des municipalités, je fais passer des examens de code sur un banc.
OK.
C'est très lourd, en principe, appliquer ça. Là.
OK.
C'est là le problème. Souvent, c'est pour ça que les villes font ça. T'sais, une ville comme Montréal, on est spécialisé en code. Un inspecteur qui va juste faire ça, des inspections de code. C'est facile. C'est une spécialité. Dans des villages, on arrive, la personne que tu regardes doit connaître le zonage, le code, les lois sur l'environnement. Le... À un moment donné, ça devient juste trop lourd et il enlève.
Parce que comme tu dis, tu es obligé de respecter pareil. Moi, j'étais à Saint-Édouard, j'ai construit une maison neuve, puis les fenêtres, puis les garde-corps, puis tout ça, c'est... on n'a pas eu le choix de suivre les... Même s'ils n'ont pas ce code-là.
Si un entrepreneur, lui, n'a pas le choix de suivre, lui, il ne fera pas de code non conforme. C'est lui qui va se faire poursuivre s'il arrive quelque chose. Je ne sais pas, moi, il oublie de mettre son garde-corps à l'escalier en haut dans la maison, puis le moment tombe, ben, si tu... il y a quelqu'un qui va poursuivre. Là, sur un moment donné, il va dire comment ça, c'était pas là, puis...
OK. Ben, je posais la question pour comprendre comme vous.
C'est vraiment administratif. Mais c'est ça. Le fait de l'enlever n'exclut pas que le citoyen, même un autoconstructeur, en principe, devrait respecter le code. C'est juste que moi, quand je vais aller inspecter, je suis fatigué avec mes garde-corps, mais s'ils ne sont pas là, rien faire. Faut dire.
Donc, pour faire une histoire courte, même si la municipalité enlève le code pour nous permettre, mettons, nous aider puis nous permettre de partir, il faut quand même attendre 2 mois.
Ouais.
Puis,
je peux pas délivrer le changement d'usage. Là. J'ai pas le choix, il faut que je respecte ma réglementation.
Parce que quand ils ont désacralisé, ils n'ont pas fait le changement que c'est encore une église.
C'est le nouveau propriétaire à le faire.
C'est le nouveau propriétaire à le faire.
Mais ça, c'est qui nous le disait?
Ben, je sais pas.
Parce que c'est ça, si on est là, c'est parce qu'on n'avait pas ces informations-là. C'est pas de mauvaise foi, c'est juste que...
Ça revient à dire.
Pardon?
Je suis pas là pour juger, je savais même pas qu'il y avait un projet comme ça, c'est amené juste.
Ça revient à dire ce qu'il disait tantôt, c'est que dans les petites places, à un moment donné, l'inspecteur ne connaît pas toutes, puis à un moment donné, ben, il en échappe.
Ben là... c'est ça, c'est sûr que moi, ces choses-là, ça ne vient pas à mes oreilles au bureau
non,
ici. Si je m'avais entendu parler, je vous l'aurais dit. Tu sais, j'aurais dit, ben, écoutez, ça va venir qu'un changement d'usage. Les demandes d'information, c'est là. Mais c'est tout le monde, c'est pas tout le monde qui le sait, mais il y a encore le donné, nul n'est censé ignorer la loi. En principe, ça vient avec. Tu peux pas dire, on peut pas dire, ben, je ne savais pas que ça vient. Puis à l'époque, quand ils ont vendu l'église, eux, en sachant pas ce qui va là, on ne fait pas un changement d'usage pour dire, je change d'usage, mais je ne sais pas ce que je fais.
C'est
là où, au début du projet, moi je sais pas, c'est la première fois, ben, on m'a entendu parler, quoi, il faudrait que je regarde la date sur le dossier, là, mais c'est là où c'est venu avec la demande de permis.
Quoi, Jean-Claude?
Je reviens avec mon duplex qui est changé en unifamilial. Si la personne a payé pendant 10 ans des taxes de duplex, ça sert encore. Elle fait son changement d'usage, on ne peut pas réclamer une rétroaction de ses taxes. C'est à elle de faire son changement d'usage quand c'est temps.
Monsieur Daou aurait une question.
Bonsoir. Si on revient au code municipal seulement, pas à notre code, les lieux publics vont quand même rester au code provincial, non?
Si on enlève le code du bâtiment, c'est pour tout le monde.
Non, je veux bien, mais quand ça devient des lieux publics, c'est pas géré, c'est pas les municipalités qui gèrent. Oui?
Ben, c'est sûr que dès qu'il va avoir un permis de rénovation, de travaux, de peu importe, là, ils n'auront pas le choix de l'appliquer parce que je vais exiger les plans d'architecte parce qu'il est quand même applicable. Dès que j'exige les plans, je vais appliquer la loi à ses architectes. Puis lui, l'architecte, il ne peut pas faire quelque chose de non conforme au code. C'est impossible. S'il met son sceau là-dessus, il est responsable de tout le monde. Fait que c'est ça. Mais c'est parce que la loi des architectes s'applique sur une municipalité, elle exige des plans. Puis dans le cas de Renault, on exige des plans quand même. Parce que, je veux dire, je peux pas, on peut pas juste dire, je fais un mur quelque part dans le milieu de ma bâtisse. Faut savoir, c'est où le mur, c'est quoi la grandeur, c'est quoi le local, c'est pour faire quoi. Mais suivant ça, exemple, une maison, c'est pas applicable à la loi des architectes. Et lui, il s'est dit, c'est comme là, mettons, il se dit, je change mon escalier de place. Mais là, il exige des plans parce que je dois m'assurer que l'escalier est conforme au code. Mais là, s'il me dit, je change mon escalier de place, il peut me faire un croquis. Puis s'il n'est pas conforme au code, il n'est pas conforme au code. C'est tout. C'est pour moi qu'il peut analyser. Je peux y enregistrer un mot. Là, c'est juste des conseils. Là. C'est pour.
Des obligations?
Non. Si j'ai bien compris, il serait quand même. Vu que c'est un lieu public, là. Il serait quand même obligé d'appliquer les normes du Québec pour les lieux publics.
S'il y a un permis de rénovation, oui.
OK. Avez-vous d'autres questions?
Non.
Non.
Fait que on va délibérer. On va s'en parler, nous. Puis on va vous donner au courant qu'est-ce qu'il y en a exactement. C'est bon.
Au moins, ça nous éclaire.
Ouais, au moins, on sait où qu'on s'en va. Puis.
Ben, on pense savoir où qu'on s'en va.
Ouais.
Ben,
ouais, bonne idée, déjà. Ouais. Si tu veux rester, Nicolas, là.
Si jamais vous avez des questions,
on va répondre.
Est-ce qu'on la séance?
Sinon.
Ou tu fais la est-ce qu'on la joue?
Ouais. On va ajourner la réunion pour discuter.
Tu l'heure? 19h56.
Fait que nous autres, on peut y aller. Ouais.